J'ai une très bonne question pour vous. Est-il possible de s'en sortir sans l'aide de Dieu quand on est dans l'épreuve? La parole de Dieu va nous donner la réponse que nous avons tous besoin d'entendre aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Quel encouragement on reçoit dans les psaumes. On a tous des épreuves à traverser à un moment ou à un autre. Si vous êtes dans l'épreuve en ce moment, écoutez bien les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Elles vont vous donner un avant-goût de ce que Dieu va nous enseigner en y répondant. Voici donc ces questions. Est-ce que la Bible nous enseigne à glorifier et à honorer Dieu? Est-ce que Dieu est toujours au contrôle quand il y a des tempêtes dans notre vie? Est-ce qu'il nous accompagne pendant ces tempêtes? Est-il possible d'entendre ce que Dieu veut nous dire pendant ces tempêtes? Sommes-nous appelés à louer Dieu dans ce monde de souffrance et d'injustice? Est-il possible de s'en sortir sans l'aide de Dieu quand on est dans l'épreuve? Est-ce que Dieu doit parfois nous discipliner? À quoi servent nos épreuves, au juste? Restez là, nos réponses s'en viennent. Le Seigneur va nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on a besoin de toi. Viens toucher nos cœurs par ta belle parole aujourd'hui. Transforme nos vies. Amène-nous à grandir dans tes voies, à mieux te servir par ta belle parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous étudions les psaumes 29 et 30. Le psaume 29 est un psaume qui traite de la nature, tout comme le psaume 8 que nous avons déjà vu. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Le psaume 8, verset 4. Au psaume 19, nous avons lu « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Le psaume 19, verset 2. Puis, le psaume compare le soleil à un époux qui sort de sa chambre. Aujourd'hui, nous examinons un psaume qui décrit une tempête. Le tonnerre et les éclairs de la tempête, violente, sèment la terreur. La structure de ce psaume est fascinante. C'est de la poésie hébraïque, à son meilleur. La symétrie de ce psaume est parfaite. C'est un des meilleurs échantillons de la poésie hébraïque. Nous avons une description brève, mais saisissante, d'une tempête furieuse. Donc, le psaume 29 est un cantique hébreu traçant le tableau d'une tempête. La poésie hébraïque n'est pas formée de vers qui riment comme la nôtre. Voici un échantillon du chant « Gloire au divin Fils de l'homme » paroles de L. Girardet. « Gloire au divin Fils de l'homme, Christ qui monte vers les cieux, Christ vivant, mon cœur te nomme l'immolé victorieux. » La poésie hébraïque, plutôt que d'être formée de vers qui riment, est formée avec un parallélisme de pensée. Une pensée est reformulée en d'autres mots dans la phrase suivante. Elle est souvent amplifiée. Notez la répétition des pensées dans cet exemple. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. Ce psaume peint la liberté et la majesté d'une tempête. Nous percevons le triomphe de la tempête, un abandon glorieux et une jubilation courageuse. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Les deux premiers versets forment le prologue. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. David élève nos pensées très haut. lors des tempêtes de la vie. Dieu est toujours au contrôle, chers amis. Les deux derniers versets forment l'épilogue. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. La tempête furieuse a tout détruit sur son passage, mais Dieu était toujours au contrôle. Mes amis, lors des tempêtes de la vie, Dieu est toujours au contrôle. Notez le contexte de ce psaume écrit par David. Il est un homme d'extérieur, il fut berger. Il a échappé à Saül en fuyant dans le désert. Il n'était pas un homme qui passait ses journées dans son bureau. Il n'était pas enchaîné à son trône. Cependant, lorsque cette tempête arriva, il était à Jérusalem, une ville construite sur une montagne. Il était dans son palais de cèdre sur le mont Sion. De là, il pouvait apercevoir le pays au loin. À l'ouest de Jérusalem, il y avait la Méditerranée et la ville côtière de Joppa. Au nord, il voyait les montagnes du Liban. À l'est, il apercevait le Jourdain, la mer Morte et la ville de Jéricho. Au sud, c'était le désert de Juda. David savait comment survivre dans ce désert. En regardant vers le nord-est, il devait voir les nuages sombres se former et s'approcher. Chers amis, débutons notre lecture, le psaume 29, versets 1 et 2. Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Ce psaume est adressé au fils de Dieu. Tout comme plusieurs érudits, J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, pense que le texte réfère aux grands de ce monde. Cette position se défend à partir du texte hébreu. McGee voit dans ce verset une exhortation à donner la gloire à Dieu et à se soumettre au règne du Messie. Ces deux premiers versets forment le prologue du psaume. Nul d'entre nous n'est si puissant, si sage et si élevé qu'il ne peut rendre gloire à Dieu. Qui que nous soyons, nous devons reconnaître que nous sommes entièrement dépendants de Dieu pour la vie, et pour l'être, et pour tous ses besoins. C'est lui qui a créé la terre et qui la soutient. De même, nous ne pouvons pas nous présenter trop humblement devant Dieu. Nous ne sommes rien comparé aux perfections infinies de Dieu. Maintenant, considérons le sujet du psaume. Une tempête violente balaie le pays. Nous avons trois strophes. Les versets 3 et 4. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. C'est le début de la tempête. On peut entendre le tonnerre et percevoir les éclairs provenant du nord-est. La tempête se forme et s'avance vers Jérusalem. La voix de l'Éternel, c'est le tonnerre. De son palais, David voit la tempête venir et il entend le vent souffler. Les nuages s'assombrissent. Ils masquent le soleil du midi. On entend le tonnerre et les éclairs sillonnent le ciel. Ce n'est pas une petite pluie d'été. Ce n'est pas une tempête ordinaire. C'est une tempête semblable à un ouragan. La tempête frappe la côte méditerranéenne. Les vagues gigantesques se brisent sur le rivage avec le bruit d'un canon. Ensuite, la tempête frappe les terres à l'intérieur du pays. Impitoyable, elle balaie le pays du nord vers le sud. Jérusalem n'y échappera pas. Elle s'approche lentement. La voix de l'Éternel est puissante. Elle se fait entendre de loin au moyen du tonnerre. Tout tremble. La voix de l'Éternel est majestueuse. Le spectacle nous coupe le souffle. Verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Le Liban est secoué par la férocité de la tempête. Les éclairs frappent les arbres. La tempête secoue le mont Hermon. La tempête avance vers Jérusalem au rythme du tonnerre et des éclairs. C'est un spectacle majestueux et terrifiant. La tempête arrive. Versets 6 et 7. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Les éclairs frappent avec toute leur furie à proximité de Jérusalem, dans un fracas qui rappelle un bruit de combat. Les rues sont désertes, les volets sont fermés. C'est le silence avant la tempête. Les jappements des chiens se font entendre de la vallée de Kidron. Puis soudain, une pluie torrentielle frappe la ville. Les vents violents se jettent contre la muraille de Jérusalem. Un volet se détache et s'envole, heurtant les maisons et le sol avec un bruit fracassant. David a vu de telles tempêtes auparavant. Il attend patiemment afin d'entendre la voix de l'Éternel. Verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Maintenant, David voit la tempête passer. Elle s'éloigne et la pluie cesse et le vent se calme. La tempête partit. Les gens ouvrent leurs volets. La tempête s'éloigne de Juda et avance vers le désert de Juda, au sud-ouest de la ville, là où se trouve la ville de Kadesh. Finalement, la tempête meurt dans le désert de Sinaï. L'air est frais, et David entend le torrent couler dans la vallée de Kidron. Verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire !» La tempête fit du bien. Les animaux furent apeurés et certains mirent bas. Ils n'eurent pas à subir une douleur prolongée. Des personnes qui n'avaient pas mis les pieds au temple depuis longtemps y allèrent. Elles donnèrent gloire à Dieu. La tempête s'éteignit une fois qu'elle atteint le sud. Verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel contrôlait la tempête, tout comme il a contrôlé le déluge. Verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Une tempête démontre la puissance de Dieu, et il donne la force à son peuple pendant celle-ci. Dieu nous fortifie afin que nous passions à travers les tempêtes de la vie et que nous apprécions la paix qui suit la tempête. Une tempête peut frapper tout le pays avec furie, mais Dieu est toujours au contrôle. Il est dans toutes les tempêtes de notre vie, et ensuite il bénit son peuple par sa paix. Depuis que nous étudions les psaumes, j'ai mentionné souvent la grande tribulation qui attend la nation d'Israël. Mais Dieu va aider son peuple à traverser cette période difficile. La bataille d'Armageddon attend ce peuple. Un ennemi venant du nord envahira le pays. Mais Dieu demeure au contrôle de cette tempête. C'est un encouragement pour Israël et pour nous, croyants. Jésus nous accompagne pendant les tempêtes. Ce psaume nous parle aussi. Nous appartenons à la nouvelle création et non plus à l'ancienne. Nous appartenons au dernier Adam. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais il y a des tempêtes dans la nouvelle création. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez vécu des tempêtes où vous vous trouvez dans une présentement. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est le maître des tempêtes. Il a traversé de nombreuses tempêtes avec les siens. Une fois, une tempête s'est levée alors qu'il était dans une barque avec ses disciples. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Marc, chapitre 4, versets 37 à 40. Cette fois-là, il a calmé la tempête, mais il ne le fait pas toujours. Parfois, il murmure à notre oreille, « Nous allons atteindre le port. Faites-moi confiance. » C'est ce qui est important, chers amis, lui faire confiance pendant les tempêtes. Dieu nous parle parfois dans un murmure doux et léger, comme il l'a fait avec le prophète Élie, dans 1 Roi, chapitre 29, verset 12. Cependant, nous n'entendons pas, alors Dieu élève la voix et il nous parle par le tonnerre. Dieu sait se faire entendre lorsque cela est nécessaire. La voix de Dieu a fait trembler le pays, les montagnes et toute la nature. Si Dieu a manifesté une puissance si grande sur terre, qui pense pouvoir résister à Dieu au jour du jugement, au jour de sa colère? Maintenant, nous passons au psaume 30. C'est un psaume de consécration pour la maison de David. C'est un chant de louange et d'adoration. Il suit une tempête qui a frappé David. Certains érudits pensent que David a composé ce chant lorsqu'il a transporté l'arche de l'Alliance dans le tabernacle qu'il avait aménagé à Jérusalem. D'autres pensent que l'occasion fut la consécration de l'aire d'Aravna, l'endroit où le temple sera éventuellement construit. D'autres y voient un élément prophétique. David aurait composé ce psaume après que Dieu lui ait promis de lui créer une maison. 2 Samuel, chapitre 7, verset 11. Chers amis, débutons la lecture de ce nouveau psaume. Le psaume 30, versets 1 à 3. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison, de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dans ce monde de souffrance et d'injustice, nous sommes appelés à louer Dieu. Certains, dont J. Vernon McGee, pensent que David fut malade comme le roi Ézéchias et que Dieu l'a guéri. Nous ne savons pas de quelle maladie il a souffert, mais ces versets affirment qu'il a été guéri. Dans ce monde de souffrance et d'injustice, nous sommes appelés à louer Dieu. Détournons nos regards de tous ces malheurs et tournons-nous vers ce Dieu qui nous fait du bien. Quoique les ennemis de Dieu puissent porter des coups, à la fin, ils ne prévaudront pas. Si notre automobile tombe en panne, il est tout à fait naturel de faire appel à un mécanicien. Par contre, si notre corps ou notre esprit est malade, allons vers notre Créateur. Cela n'exclut pas une consultation médicale, mais adressons-nous toujours à Dieu. Verset 4. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Sans Dieu, nous n'irions pas loin. Si Dieu n'était pas avec les siens en tout temps, les dangers auxquels nous devons continuellement faire face nous détruiraient. Tout comme Israël ne pouvait pas savoir que Balak avait embauché Balaam pour maudire la nation, de nombreux dangers échappent à notre regard. Tout comme il l'a fait avec Balaam, Dieu intervient pour nous protéger. Verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Ceux qui aiment Dieu invite les autres à louer l'Éternel. Cependant, il est inutile de demander à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu de louer Dieu. Ils apprécient les bonnes choses que Dieu donne, mais ils haïssent le donneur. Jean chapitre 15, versets 18 et 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Dieu a averti les siens, ici en la personne de Jésus-Christ, qu'ils seraient haïs à cause de lui. Une haine sans aucune cause sans aucune raison, tout simplement parce qu'il est Dieu, parce qu'il est lumière. Verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Dieu nous discipline pour notre bien. À quelques reprises dans notre vie, il arrive que le Seigneur doive nous discipliner. Sur le coup, ce n'est pas plaisant, mais la colère de Dieu envers ses enfants ne dure jamais. C'est pour notre bien qu'il nous discipline, et c'est sa grâce qui est éternelle. L'Éternel a le droit de nous ramener dans le droit chemin, de nous conduire là où il fait bon vivre. Versets 7 et 8. Je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. David s'est cru en sécurité, et, comme nous le faisons souvent lorsque tout va bien, nous négligeons Dieu. Nos biens matériels nous détournent souvent de Dieu, donc Dieu cacha sa face de David. C'est une preuve que David aimait Dieu. Ceux qui haïssent Dieu ne se soucient pas du fait que Dieu leur cache sa face. Mais David ne pouvait pas demeurer indifférent en l'absence de la présence divine. Il avait déjà trop souvent goûté la joie d'une relation intime avec Dieu, donc il chercha la face de Dieu. Qu'en est-il de vous? Cherchez-vous la face de Dieu? Avez-vous faim, avez-vous soif de sa présence? Versets 9 et 10. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Tout ce qui nous amène à prier et à nous accrocher à Dieu est bon pour nous. Il est bon de plaider la gloire de Dieu ou notre incapacité lorsque nous abordons Dieu dans la prière. Moïse l'a fait lorsque Dieu voulait exterminer le peuple qui avait fabriqué un veau d'or. Moïse lui a dit que les Égyptiens diraient que Dieu n'était pas assez puissant pour sortir son peuple d'Égypte et que ce serait un échec. Dieu désire ardemment que nous nous approchions de lui. Et nos épreuves servent souvent à cela. Donc, la meilleure chose à faire lorsque nous sommes en difficulté, c'est de lever les yeux et de lancer un SOS, de crier, d'implorer notre grand Dieu. Versets 11 à 13. Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Chers amis, les facultés de notre corps et de notre esprit, qui nous élèvent au-dessus des animaux, ne peuvent être mieux utilisées que lorsque nous nous en servons pour louer et adorer Dieu. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous implorons sa grande miséricorde envers nous, des êtres pécheurs, nous obtenons notre pardon. Et par le fait même, nous sommes réconciliés avec Dieu par la personne de Jésus-Christ. Et par le fait même, tu deviendras un vrai adorateur, selon l'Esprit de Dieu et selon la vérité. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant le psaume 31 ainsi que le premier verset du psaume 32.
Oh, merci beaucoup, Régent. Je me demande ce que je ferais sans la parole de Dieu. Et dire que je m'en suis passé jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce n'est pas surprenant que j'ai essayé toutes sortes de moyens de m'en sortir dans mes épreuves avant de connaître Dieu. J'ai essayé les voyages, les amants, les lectures soi-disant spirituelles, le yoga, les bouffes exquises, les meilleurs vins, les abus d'alcool, la drogue, les psychiatres, pour finir par essayer de m'enlever la vie. Je vous lance tout ça d'un seul coup, et ce n'est pas pour me vanter que je le fais. Au contraire, j'en rougis aujourd'hui, mais j'aime le partager avec vous en sachant qu'il y en a parmi vous qui sont présentement au beau milieu d'une grosse épreuve. Mes amis, voulez-vous savoir comment vous en sortir? C'est impossible de le faire sans l'intervention divine, sans l'aide de Dieu. Laissez-moi vous raconter. En 1977, alors que j'avais tout essayé pour m'en sortir, alors que j'étais malheureuse en amour et frustrée de ne pas être rendue où je voulais dans mon travail, alors que j'étais aux prises avec la drogue, je me suis enfin tournée vers Dieu et j'ai crié ma détresse. Je l'ai supplié d'avoir pitié de moi et il a enfin placé une personne sur mon chemin, une personne qui ne savait même pas ce que je souffrais. Elle s'est mise à me parler de Jésus, de ce Jésus merveilleux, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, qui est venu sur la terre dans un corps comme le nôtre, afin de venir payer la dette que nous avions envers Dieu pour nos péchés. Quand cette personne m'a dit ce que je devais faire, que je devais avouer que j'étais une pécheresse, ma première réaction a été de dire « Je fais pas ça, moi, des péchés! » Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je me suis sentie coupable de l'avoir dit ça. Je venais de mentir et l'Esprit de Dieu m'en a convaincu. Il m'a convaincu que j'étais une pécheresse perdue. D'ailleurs, Paul nous dit bien, dans le 3e chapitre de son Épître aux Romains, au verset 23, que tous ont péché. Bon, je réalisais ma culpabilité devant Dieu. Et ensuite, la dame m'a dit que je devais réaliser que c'était pour moi personnellement que Jésus était venu mourir sur la croix, qu'il avait pris la condamnation que je méritais sur lui, qu'il avait tout accompli pour payer mon droit de passage pour aller au ciel le jour où j'allais mourir. Alors je me suis finalement repenti. J'ai vu ma vie de péché se dérouler sous mes yeux et j'ai décidé de ne plus marcher de cette manière, de changer de direction. Puis j'ai dit « Seigneur, sauve-moi, prends tout mon cœur ». Et il l'a fait. Et je ne suis plus la même depuis ce jour. Je suis une enfant de Dieu et je suis certaine qu'un jour, je passerai l'éternité avec lui, dans la joie, dans la paix, dans son amour. Oh, j'ai encore des épreuves, mais le Seigneur est toujours là pour me fortifier et m'aider à les traverser. Il me donne des réponses dans sa parole, afin que je comprenne ce qu'il veut m'enseigner par l'épreuve. Alors, mon ami, ce cadeau, cette vie éternelle est pour toi aussi. Tu n'as qu'à faire la même chose que j'ai faite. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Demande à Jésus de te pardonner. Repens-toi. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et c'est certain qu'il va le faire. Jésus t'aime et c'est pour toi qu'il est mort sur cette croix. Maintenant, ses bras sont grands ouverts pour t'accueillir dans sa présence.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous, parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Je vais toi connaître, et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.